Fréquence Europe, l'émission européenne des radios Judaïka réalisée avec l'Europe Direct de Strasbourg. Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver pour cette semaine pour une nouvelle émission Fréquence Europe, l'émission européenne des radios Judaïka Strasbourg et Bruxelles, une émission spéciale Fréquence Europe avec Frédéric Ancel de passage à Strasbourg. Alors Frédéric Ancel, pour rappeler, professeur de relations internationales, docteur en géopolitique, habilité à diriger des recherches et maître de conférences à la Paris School of Business et à Sciences Po Paris, et bien sûr spécialiste reconnu du Moyen-Orient. Alors, il vient d'organiser les rencontres géopolitiques internationales de Trouville. Ces rencontres ont eu lieu. Comment ça s'est passé ? Racontez-nous.
Ma foi, fort bien. La thématique portait sur les frontières et c'est toujours sous le haut patronage de Jean-Yves Le Drian, en partenariat avec Sciences Po Paris, l'Histoire et Hérodote, notamment la PSB, la Paris School of Business, bien sûr. Et nous avons 8 tables rondes avec 34 intervenants, 2 grands témoins, cette année Bertrand Badie et Régis Debray. Et ça a été formidable, plus de 300 personnes ont assisté à cette rencontre dorénavant annuelle à Trouville-sur-Mer.
Et je crois que vous avez déjà le programme et les dates de l'année prochaine.
Et oui, merci de me faire l'amitié de pouvoir les indiquer. Les 13 et 14 juin 2020, les 5e rencontres internationales géopolitiques de Trouville auront lieu sur la thématique suivante, mémoire et géopolitique.
À noter ces deux dates que l'on mettra également sur notre site web. Alors, monsieur Ancel, nous vous proposons dans l'émission de revenir avec vous sur l'actualité européenne récente pour nous permettre d'avoir votre analyse, votre point de vue sur les enjeux et conséquences que pourraient avoir certains événements en termes de relations internationales et de géopolitique. C'est vraiment cet angle de géopolitique sur les affaires européennes qui nous intéresse. Alors on va commencer par une première question, qui est celle des élections européennes. Elles ont eu lieu le 26 mai, dans les encore 28 États membres. Comment analysez-vous globalement, vous, comment vous avez regardé ces élections et comment vous les analysez ?
Je craignais une catastrophe, c'est-à-dire l'explosion des partis et des courants rouges et bruns. C'est-à-dire, pour faire très court, l'extrême gauche, ou en tout cas la gauche radicale hostile à l'Union européenne telle qu'elle existe aujourd'hui, et de l'autre côté, de l'échiquier politique à la fois français et européen, la montée en puissance des mouvements d'extrême droite et populistes. Finalement, alors, il y a bien une montée des populismes, mais plus contenue que ce qu'on craignait, d'une part, et d'autre part, ces gens-là ne s'entendent pas entre eux. Et ça, c'est une excellente nouvelle, on l'a bien vu d'ailleurs récemment.
C'est la question que je voulais vous poser, parce qu'on peut parler d'un échec, finalement, des partis nationalistes, parce que quand on reprend... Bon, un échec, je parle européen, parce qu'en France, le FN est quand même arrivé, le RN est quand même arrivé en tête, la Liga en Italie également, mais quand après on additionne et qu'on voit, ils sont quand même très divisés, alors c'est un échec, mais vous expliquez comment finalement que ces partis eurosceptiques, voire europhobes, n'arrivent pas à s'entendre.
Ah, ils n'arrivent pas à s'entendre parce qu'il y a des réalités locales, historiques et géographiques fondamentales. Prenez le cas de l'extrême droite ou des partis populistes de manière générale en Pologne. Bon, en Pologne, on est bien évidemment rivé contre la Russie, d'une part, et d'autre part, sur un catholicisme extrêmement fort, traditionnaliste. Bon, si vous voulez, le catholicisme au sein du RN en France, ça joue plus, et certainement pas avec Marine Le Pen, d'une part, et d'autre part, le RN en France, il est très très russophile, il est pro-russe. Prenez le cas de l'Italie, où on retrouve des particularismes assez similaires à la France, tandis que, par exemple, les mouvements populistes britanniques et néerlandais sont très philosémites, ne sont absolument pas antisémites, c'est le moins qu'on puisse dire. Et d'ailleurs, ces gens-là refusent de pactiser, justement, avec l'extrême droite française, qu'ils considèrent comme étant quand même extrêmement ambigu, c'est le moins qu'on puisse dire, sur l'antisémitisme.
Et vu ses racines, on le sait aussi. Alors, avec des grandes difficultés, les chefs d'État et de gouvernement des 28 pays sont finalement arrivés à se mettre d'accord sur une liste de 4 grands futurs dirigeants de l'Union. Alors ils proposent, hein, puisque c'est encore que le stade de la proposition, il va falloir que ce soit approuvé par le Parlement, comme futur président de la Commission européenne, une personne un peu connue finalement, qui s'appelle Ursula von der Leyen, ministre de la Défense. Est-ce que vous avez déjà pu voir un petit peu cette personnalité? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette personne à la tête de la Commission européenne?
Elle est compétente. C'est-à-dire qu'en tant que ministre allemande de la Défense, comme on le dit souvent, elle a fait le job. Et ça, c'est intéressant. D'une part. D'autre part, bien évidemment, elle est totalement convaincue qu'il faut aller encore plus loin, hein, dans la construction européenne. Ça, c'est une certitude. Troisième point, elle n'est pas hostile à un rapprochement entre la France et l'Allemagne. Or, vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelques années, on a des difficultés. Alors, au-delà des symboles, ça, les symboles, ils sont toujours là, c'est formidable. Et tant que Mme Merkel est là, mais vous savez que son temps est compté dorénavant, il n'y aura pas de sujet. Après elle, il n'est pas du tout évident que le couple franco-allemand soit aussi fort que ce qu'il a été ces dernières années. Bon, eh bien, avec cette personnalité, a priori, pour l'instant, ça devra bien se passer. Pareil avec Monsieur Michel, qui a beaucoup d'expérience, qui est très, j'allais dire, pro-européen.
Je pourrais dire juste à nos auditeurs, Michel, lui, c'est au Conseil européen. Voilà, donc c'est ça. Ce serait le président de la réunion des chefs d'État et de gouvernement.
C'est ça. Donc là aussi, on a quelqu'un de francophile et quelqu'un qui est très proactif, qui dispose d'une expérience très importante. Je rappelle que il a été ministre en Belgique pendant de très longues années. Bon, donc on a des gens dont la personnalité, mais surtout l'expérience, sont manifestement plus conséquents et considérables que la personnalité, je ne sais pas, mais que l'expérience en tout cas des personnalités en date, des responsables en date.
Alors revenons maintenant peut-être à la politique étrangère que vous connaissez très bien également. C'est l'autre figure importante, c'est l'Espagnol Josep Borrell. Alors 72 ans, ancien président du Parlement européen, ministre des Affaires étrangères espagnol actuellement. Lui, il est proposé donc à la fonction de haut représentant de l'Union pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité en remplacement de Federica Mogherini. Par rapport à lui, on dit que de lui qu'il est très atlantiste. Qu'est-ce qu'on pourrait encore dire sur cette personnalité ?
Oui, c'est une personnalité qui, si elle n'avait pas été choisie par les Européens, dont on aurait pu dire qu'elle était choisie par les Américains. Effectivement, il est très atlantiste. Alors, aujourd'hui, l'Union Européenne, de toute façon, est de toute façon très atlantiste. D'abord parce que la quasi-totalité des États de l'Union Européenne font partie de l'OTAN. Hein, donc, vous avez un quasi-calque lorsque vous prenez la carte des membres de l'OTAN. Et celle des membres de l'Union européenne, vous avez un quasi-calque. Bon, premier point. Deuxième point, ces dernières années, il y a eu une sorte de le développement d'une forme de méfiance vis-à-vis de la Russie. Bon, et là, ce personnage fonctionne de cette manière-là. Il est atlantiste, il est pour une Europe forte. Là aussi, c'est intéressant, hein, quand même. Hein, peut-être même plus forte en termes d'affaires étrangères que ce que préconisait jusqu'à présent Madame Mogherini. En tout cas, elle n'a pas peut-être pu faire davantage. Lui, manifestement, voudra incarner une diplomatie, plus proactive. Faut-il encore que les États membres soient d'accord, hein. On a bien vu ces dernières années que l'Union européenne, à l'est, hein, sur son flanc est, posait problème sur un certain nombre de dossiers. Hein.
Et le commentaire qu'on fait, c'est que sur cette nomination, il n'y a pas de personnalité de l'Est de l'Europe.
C'est juste.
Alors, une autre question qui me vient maintenant un peu plus rétrospectivement. Comment vous jugez l'action de Mme Mogherini durant les cinq dernières années? Comment vous voyez cette action? Alors, on sait qu'il y a notamment l'accord sur le nucléaire iranien, sur lequel on reviendra, mais comment vous jugez son action finalement par rapport à...
Positive au regard des prérogatives dont elle dispose réellement, c'est-à-dire très faible. Vous savez, les porte-paroles, enfin les responsables en matière de politique étrangère et de défense de l'Union européenne, fondamentalement, sont choisis par les États, on est bien d'accord. Bon, et ils ne sont pas choisis par Malte. Hein. Bon, donc si vous voulez, les États, les choix fondamentaux sont faits à Paris et à Londres et accessoirement à Berlin. Bon, donc ça, il faut le savoir. Il n'y a que deux puissances au sein de l'Union européenne, hein, chez les 28, alors 27, 28 maintenant, qui se représentent encore comme de véritables puissances globales. C'est la France et la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne est en train de partir. Bon. Donc, on a intérêt, enfin, en tout cas, aux yeux de Paris et de Londres, jusqu'à présent, on avait intérêt à ce que les personnalités nous représentant soient finalement relativement faibles, pour pas qu'elles fassent de l'ombre, pour pas qu'elles gênent ces grandes puissances que sont la France et la Grande-Bretagne. Donc, c'est la raison pour laquelle, avant Mme Ashton et maintenant Mme Mogherini, on fait le mieux qu'elles pouvaient faire avec leurs moyens politiques. Et lorsqu'elles proposaient trop vite ou trop loin, à Paris, à Londres et éventuellement à Berlin, on leur disait, écoutez, vous êtes bien gentils, mais derrière, il y a des États souverains. Donc là, je ne sais pas dans quelle mesure on pourra faire plus et mieux. Ça dépendra de la volonté des puissances.
Un des succès de la diplomatie européenne mise à mal, hein, aujourd'hui par l'unilatéralisme des États-Unis et l'accord sur le nucléaire iranien de 2015. J'aimerais avoir avec vous... avec le recul, avoir votre avis sur cet accord et sur le rôle de la diplomatie européenne. Comment vous jugez cet accord déjà? Et surtout après les réactions qu'a eu l'Union européenne après le retrait des États-Unis.
Alors comme vous le savez, ce n'est pas l'Union européenne, hein, qui est partie prenante de cet accord. Hein. On en revient toujours au même. Hein. C'est la France, c'est la Grande-Bretagne, c'est l'Allemagne, plus les États-Unis, la Chine et la Russie.
Et c'est Mme Mogherini qui était quand même à l'œuvre.
Elle était à l'œuvre sur un strapontin. ce n'est pas l'Union européenne qui est signataire de l'accord. Donc elle était invitée, oui, tant mieux, moi j'en suis tout à fait, enfin j'étais tout à fait favorable, ce n'est pas l'Union européenne qui était signataire de l'accord. Et ça c'est quelque chose dont on ne peut pas se défaire. Vous dites à juste titre que aucun responsable en provenance des pays de l'Est, de l'Europe, n'est devenu l'un des grands responsables. Oui, mais pour cause, hein, on a une fissure qui devient fracture entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est vis-à-vis d'un certain nombre de dossiers. C'est vrai avec la Russie. Alors sur l'Iran, pas trop, parce que je vous dirais qu'il y a assez peu d'interactions entre les États de l'Est du continent et l'Iran. En revanche, regardez ce qui se passe au Mali et au Sahel de manière générale, les États de l'Europe de l'Est, pardon, s'en fichent complètement, ça ne les intéresse absolument pas de guerroyer aux côtés de la France face à l'islamisme radical, qui est un dossier qui ne les intéresse pas. En revanche, la crainte de la Russie, oui, ça, elle est extrêmement forte. Quoi. Et alors, pour la Pologne, ça va encore plus loin. Donc, je vous dirais que sur le dossier iranien, on reste réellement sur les États traditionnels à l'ancienne. Hein, c'est vraiment la France qui est à la manœuvre, c'est la Grande-Bretagne qui est à la manœuvre, c'est l'Allemagne qui est à la manœuvre, beaucoup plus que l'Union européenne.
Donc on ne peut pas parler, pour l'instant, vous ne voyez pas l'Union européenne comme un acteur international global, c'est pas à jour.
Eh ben non. Et je suis de ceux qui le regrettent. Mais vous savez, on est resté un petit peu, dans une certaine mesure, je suis un petit peu sévère, à ce que Kissinger disait au début des années 70, l'Union européenne, oui, enfin, quel numéro de téléphone. Donc aujourd'hui, on est plus unifié que dans les années 70, mais on l'est peut-être paradoxalement moins que dans les années 2000, avec, encore une fois, l'entrée de ces États d'Europe orientale qui n'entretiennent pas les mêmes représentations, les mêmes stratégies, les mêmes objectifs, et peut-être pas les mêmes intérêts que nous autres en Europe occidentale.
Alors, l'Union doit faire face aussi à des montées nationalistes dans d'autres États, hein, à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur, de ce qu'on peut appeler du souverainisme. Comment analysez-vous l'attitude de Trump par rapport à l'Union européenne, mais aussi l'Union européenne face à Trump ?
Alors, Trump est relativement défiant vis-à-vis de l'Europe, c'est pas le premier. Et moi qui suis atlantiste, je peux le dire avec d'autant plus de force et de vigueur, je pense que les Américains se sont toujours méfiés de cette OPNI, de cet objet politique non identifié. Hein. D'ailleurs, ils militaient très fortement pour que la Turquie intègre. Hein. Pourquoi ? Par humanisme ? Non. Parce qu'ils pensaient que la Turquie, au sein de l'Union européenne, allait bloquer une partie tout ou partie du volet politique de cette Union. Ils n'en voulaient pas. Ils ne voulaient pas que l'Union européenne fasse de l'ombre à l'OTAN. Bon. Et on peut les comprendre. Enfin, en tout cas, c'est dans leur logique. Bon. Maintenant, Trump va plus loin, le dit avec plus de force, avec plus de grossièreté aussi, avec plus d'inconséquences, mais au moins, il a l'avantage de nous poser devant un véritable défi que nous avons à relever. Oui ou non, l'Union européenne se dote d'une véritable défense. Vous avez rappelé que nous n'étions pas une puissance globale. Dans le global, il y a aussi les bâtons, il n'y a pas que des carottes, il n'y a pas que l'économie et le commerce ou la culture, il y a aussi le militaire. Et ce volet-là, Trump, mais souvenez-vous, Obama aussi, hein, simplement en termes plus polis et plus choisis. Obama hier, Trump aujourd'hui nous disent: écoutez, c'est pas compliqué, vous qui êtes membre de l'Union européenne et en même temps de l'OTAN, vous allez mettre 2% des budgets, de vos budgets
de la défense,
de votre PNB, de votre PIB dans la défense. Bon. Bah, les deux seuls pays en Europe qui le font, c'est la France et la Grande-Bretagne, encore que, on est plutôt à 1,8, 1,9 qu'à 2. Les Allemands mettent 1,1. Bon, ben ça ne suffit pas. Et si ça continue comme ça, M. Trump va s'énerver, surtout s'il fait un deuxième mandat, et il cessera de financer l'OTAN. Mais quand je vous dis l'OTAN, encore une fois, hein, les États sont quasiment tous au sein de l'Union européenne, les États de l'OTAN.
Alors on va essayer de terminer l'émission sur une autre thématique, une thématique que vous maîtrisez bien, c'est le Moyen-Orient, c'est Israël. Première question, on ne va pas rentrer sur la politique concrète de ce qui se passe en Israël, mais quand même, comment allez-vous, est-ce que vous analysez la crise politique actuelle en Israël ?
Alors pour faire le lien entre les deux, je vous dirais de manière un petit peu amusée que l'Union européenne depuis 2003, donc depuis que ces États d'Europe orientale ont intégré l'UE, l'Union européenne n'a jamais voté unanimement un texte lié au conflit israélo-palestinien. Vous avez systématiquement des abstentions, des pour et des contre. Vous appelez ça une union, vous ? Bah, pas moi. Bon, ça, c'est un point très... Et attendez, c'est le seul dossier au monde sur lequel ça se produit. L'Union européenne, l'Est de l'Union européenne, en général, votant plutôt favorablement en faveur d'Israël, ou s'abstenant. Aujourd'hui, nous avons une crise politique en Israël qui n'est qui n'est pas très grave. Je veux dire, c'est plutôt l'illustration, cette crise, et le fait que les Israéliens s'en fichent pas mal, c'est l'illustration d'un pays dont l'armée, bien sûr, dont l'économie, dont la société se porte globalement plutôt bien. C'est-à-dire que, en réalité, les fondamentaux sont sains, et ça permet aux Israéliens de ne pas être rivés sur une énième crise à la Knesset, qui d'ailleurs porte sur des chicayas au sein de la droite politique israélienne. Je veux dire, c'est pas quelque chose de fondamental. On peut pas appeler ça une crise institutionnelle. Je dirais que la crise sociale qui agite aujourd'hui les Éthiopiens, mais qui agite une partie de la société et qui frappe une partie de la société ces dernières années, est peut-être quelque part plus grave quand même, hein, parce que l'économie va bien, mais pas le social.
Alors je terminerai sur Israël et l'Union européenne. On voit que les relations quand même jamais été aussi tendues qu'aujourd'hui. Hein. Je pense qu'elles ne sont pas très, très bonnes. On le voit avec l'Iran, on le voit avec la reconnaissance américaine de Jérusalem. On pourrait rajouter aussi l'attitude de Netanyahou, qui est quand même, par rapport à avec Orban, par exemple, qui est quand même une attitude où en gros, il met un peu les autres au défi, il montre comment il peut diviser un peu l'Union européenne. J'aimerais avoir votre avis finalement sur revenir sur la fin, les têtes, les nouvelles têtes qui se passent, les élections. Est-ce que tout ça peut changer ces relations en fonction des nouvelles têtes et aussi des élections en Israël?
Non, parce que les nouvelles têtes, d'abord, ne sont pas si nouvelles que ça, et puis surtout, elles ne vont pas fondamentalement changer la donne. Hein. Les grands intérêts ou les grandes représentations, les grands objectifs de l'Union européenne au Proche-Orient, si tant est encore une fois qu'elle soit union. Mais je finirai par une note plus optimiste que votre présentation. Vous dites qu'il n'y a jamais autant de tensions, que les tensions n'ont jamais été aussi fortes entre l'Union européenne et Israël. Souvenez-vous du sommet de Venise en 1980. Mais c'était catastrophique. Souvenez-vous de Giscard, flanqué d'ailleurs de Raymond Barre, qui s'il ne fut pas antisémite, n'était quand même pas très loin, qui manifestement avait planqué beaucoup d'argent en Suisse, parenthèse fermée, au sommet de Venise, de 80, Israël est sommé, littéralement sommé, d'accorder la création d'un État palestinien. Et à l'époque en face, Arafat, c'était pas Monsieur Abbas quand même. Hein, bon. Donc il y a eu des crises graves aussi. Souvenez-vous de la deuxième intifada, avec en 2001 et 2002, le ministre des Affaires étrangères qui s'appelait Hubert Védrine. Bon, donc on a eu des crises plus graves. Je vous dirais qu'aujourd'hui, on ne peut pas aller plus loin dans le partenariat à cause effectivement de ces différents assez profonds qui existent notamment d'ailleurs entre Paris et Jérusalem dans pas mal de dossiers. Mais enfin, sur le plan notamment économique, sur le plan des échanges en termes de renseignements et peut-être même d'ailleurs sur le plan militaire, au fond, on n'est pas dans une période si catastrophique que ça.
On peut rappeler, hein, l'Union européenne est bien le premier partenaire commercial d'Israël. Ben merci Monsieur Ancel. Je termine cette émission en renvoyant pour les gens que ça intéresse vers votre dernier ouvrage, hein, qui est donc Dictionnaire de géopolitique, deuxième édition, remise à jour, qu'on peut trouver chez tous les bons libraires. Merci Monsieur Ancel.